reconnais en écologie.
Encore des mouvements de colère des routiers en France
qui protestent
contre le prix élevé du gazole.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
En amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie et qui prend le temps de ne pas aller trop vite, avec aujourd'hui Rémi Quincier et Pierrick Monsigny à la technique, sans oublier Marion Lollet, notre assistante, Jean-Christophe Pinaza et Valérie Ayestaraï qui réalisent l'émission. D'abord un grand coup de chapeau pour leur flegme et leur courage à nos cousins japonais, passagers en détresse à bord de leurs grandes îles qui tanguent. Secousse record donc hier, vous le savez, au nord-est du Japon, un morceau de croûte terrestre de 500 km de long fait un bond de plusieurs mètres sous les eaux du Pacifique. Vous connaissez l'équation, tremblement de terre au fond de l'océan égale tsunami. Vous avez tous vu donc les images, région dévastée. À Tokyo, à 400 km de distance, on a été secoués comme des cocotiers, mais les immeubles parasismiques ont tenu bon, donc merci aux ingénieurs du BTP. On s'est réfugié sous les bureaux, le long des murs du métro, ou bien parmi les cerisiers, pas encore en fleurs, dans le jardin du palais impérial. Et puis ce matin, plus de doutes quant à l'état de plusieurs centrales nucléaires de la région par rapport à ce séisme. Évacuation des habitants dans un rayon de 10 puis de 20 km, suivi d'une explosion à la centrale numéro 1 de Fukushima. Fuite radioactive. Bon, on espère que l'enceinte de confinement évidemment ne sautera pas, parce que là ça ferait comme une marmite nucléaire et on se retrouverait dans la situation d'un nouveau Tchernobyl. Et pendant ce temps, la Terre continue de trembler un peu partout sur notre petite planète. Que pouvons-nous y faire, me direz-vous? Comment voulez-vous lutter contre ces catastrophes naturelles? Là, non, on ne peut pas. Un tremblement de terre, ça a commencé bien avant l'apparition des hommes, ça continuera après. Mais, en revanche, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Détour par l'Arkansas et sa série de tremblements de terre à répétition. Alors, vous permettez, je prends ma carte des États-Unis pour vérifier... Non, la région n'est pas a priori une zone sismique, hormis le méga tremblement de terre de la Nouvelle-Madrid, c'était en 1811, au cours duquel on a cru un instant que le Mississippi coulait à l'envers et qui a été ressenti dans 27 États. Et puis depuis, pas grand-chose, jusqu'à ce que l'on se lance dans l'exploitation des fameux gaz de schiste, et oui, encore lui, et qu'on se débarrasse de l'eau utilisée pour fracturer les roches en la réinjectant dans le sous-sol. La semaine dernière, pour voir, la Commission du gaz et du pétrole a demandé aux compagnies gazières de cesser ce genre d'opération. Et le nombre de secousses sismiques a aussitôt diminué. Fabuleux, n'est-ce pas? Alors, question, un nouveau méga tremblement de terre dans l'est des États-Unis, ça toucherait combien de centrales nucléaires? Et si plutôt que de transformer en gruyère notre très jolie petite planète, si on la laissait tranquille au pays du soleil soulevé ou ailleurs, ça serait pas mal. Alors, notre dossier va être consacré aux déchets aujourd'hui, avec, j'ai grand plaisir à recevoir Alain Geldron, qui est le chef du service, alors là je prends mon élan, filière responsabilité élargie du producteur et recyclage à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Bonjour Alain Geldron.
Bonjour Denis Chessou.
De quoi allons-nous parler exactement, on va dire?
Eh bien, nous allons parler aujourd'hui du tri et du traitement mécano-biologique.
Voilà, qui fait évidemment énormément débat en France. On le sait du côté de la Vendée et du Pays Basque, qu'on ira retrouver aussi un maire, donc ce fameux tri mécano-biologique. Qu'est-ce que l'on trie véritablement? Comment ça se passe donc aussi à l'étranger, mais sans plus tarder. Ah, on a aussi besoin de regarder quand même la nature. Et là, nous avons l'homme qu'il nous faut, Jean-Marie Pelt, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
L'évolution vue par un botaniste. Alors, je vois un chapitre qui s'appelle « L'addition des tuniques protectrices ». Qu'est-ce que c'est?
La vie commence dans les océans.
Oui.
Elle commence par le niveau bactérien. Ensuite, on passe des bactéries au niveau des cellules à noyaux. Ces cellules à noyaux ne peuvent plus échanger leurs gènes parce que les gènes sont séquestrés dans le noyau. Alors, ils ont inventé un truc que nous connaissons, nous les humains aussi, qui n'est pas marginal, qu'on appelle la sexualité. C'est-à-dire qu'une cellule mâle et une cellule femelle vont se rencontrer et donner un œuf. Et dans cet œuf, il y aura les gènes de la cellule mâle, les gènes de la cellule femelle. Et ces cellules mâles et femelles s'appellent des gamètes. Mais Il y a un gamète qui est plus important que l'autre. Ah. C'est le gamète femelle. Parce que le gamète femelle, il va donner la vie.
C'est comme ça dans la vie.
C'est maman. Alors, le gamète femelle, la nature se dit, excusez-moi, de faire de l'anthropocentrisme, il faut que je protège ce gamète femelle. On le trouve dans la mer, tout seul, tout nu, pas protégé du tout, et n'importe quelle bestiole peut le dévorer.
Alors, quel scénario se met en place ?
Alors, ce scénario qui se met en place, c'est des stratégies pour protéger cette cellule femelle. Alors, on va lui mettre d'abord un cache-col. Ça, c'est ce qu'on voit dans des petites algues qui s'appellent les caras. Alors, ce cache-col, c'est quelques cellules qui s'enroulent autour du gamète femelle. Et là, il y a un mystère que je trouve extraordinaire. C'est que ces algues qui vivent actuellement, elles ont le cache-col enroulé dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui. Mais il y a des fossiles qui ont le cache-col enroulé à l'envers. Toutes celles qui ont des cache-col enroulés à l'envers ont toutes disparu. Mmh. Et seules sont restées celles qui ont le cache-col enroulé à l'endroit. C'est quand même étonnant.
Oui. Explication ?
Il n'y en a pas, mais on constate. Mais alors on se dit, un cache-col, ça ne suffit pas. Il faudrait, excusez les comparaisons, puisqu'il faut faire simple, il faudrait une sous-chemise, il faudrait une chemise, il faudrait un pull vert, il faudrait une veste, il faudrait un manteau. Hein, ça fait 5 trucs. Eh bien, au long des millions d'années de l'évolution, tous ces revêtements vont s'additionner autour de la cellule femelle. Et finalement, il va y avoir autour de la cellule femelle cette enveloppe protectrice pour que vraiment elle soit bien protégée. Et alors la question se pose de savoir si ce mécanisme n'est pas en train de continuer. La dernière enveloppe protectrice, tout le monde la connaît, c'est le fruit. Dans le fruit, il y a la graine. La graine, c'est 5 enveloppes protectrices. Et le fruit, c'est la 6e.
Jean-Marie, est-ce qu'il n'y a pas des plantes qui auraient une tunique supplémentaire ?
Alors, c'est une question qu'on s'est posée et on a cherché dans ce sens-là. Et on a trouvé. On a trouvé, dans la famille à laquelle appartient le boldo, une plante...
Excusez-moi, le boldo...
Le boldo, c'est une tisane pour le foie.
Ah oui, d'accord. Oui.
On a trouvé une plante qui enveloppe son fruit dans quelque chose qui est une sorte de superfruit. Il y a le superfruit, dans le fruit, il y a la graine, dans la graine, il y a l'ovule, dans l'ovule, il y a plusieurs tuniques, et la dernière, tout au milieu, il y a le fameux gamète femelle. Et vous avez un exemple déjà de ce mécanisme d'enveloppement avec les figues. Quand ça craque sous la dent, ce n'est pas les graines, c'est les fruits. Parce que dans la figue, la fleur est toute petite. Et la fleur, elle est posée sur un réceptacle qui est fermé au bout et qui fait la figue. La chair de la figue, c'est ce réceptacle qui protège les petites fleurs. Mais l'insecte qui fait la pollinisation, il rentre par un trou en haut. Et il va dans la figue, il tourne dans la figue, il amène le pollen, il s'en va. Tandis qu'avec la plante que je viens d'évoquer, c'est la même chose, mais il n'y a plus de trou. L'insecte ne peut plus rentrer. Donc c'est une nouvelle protection qui se fait et c'est la 7e tunique. Alors, on peut imaginer que d'ici 100, 200, 300 millions d'années, il y aura encore plus de tuniques. Maintenant, que faut-il penser de cette obsession de la nature ? Moi, j'aurais fait autrement, figurez-vous.
Oui, mais enfin, elle ne vous a pas demandé son avis.
Non. Mais moi, j'aurais fait comme fait la colchique. Alors, la colchique, elle est très astucieuse. Elle met son ovaire, et donc sa cellule femelle, dans la terre. Alors là, c'est très efficace comme protection.
Oui.
Et les fleurs... Elles sortent de la terre et le pollen arrive tout à fait en haut de la fleur. Et puis, il y a un tube qui va jusqu'à la cellule femelle où le spermatozoïde va la féconder. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est très embêtant parce que, du coup, le fruit va être enterré, il ne pourra plus se disséminer. Mmh. S'il est enterré, comment il pourra circuler, comment les graines vont circuler ? Mmh. Eh bien, la colchique, quand elle est fécondée, elle sort son fruit et elle le met en surface. Et là, les graines peuvent être dispersées. Je trouvais ça très astucieux.
Tout ceci est le résultat de l'évolution ?
C'est ça l'évolution. Et comme on a parlé de l'associativité, on voit qu'il y a ici une association de tuniques successives qui s'empilent les unes sur les autres. C'est à nouveau le même mécanisme. Et ce mécanisme, il joue partout dans le monde végétal et n'a pas été bien vu, à mon avis, dans le monde des scientifiques de l'évolution.
Alors, vous allez reprendre votre manteau, c'est votre tunique à vous. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
L'évolution vue par un botaniste chez Fayard, c'est de Jean-Marie Pelt.
CO2 Mon Amour, Denis Chessou.
Et l'amour, tes gigolos ont su trouver le filon. Qu'ils fassent la rue ou qu'ils fassent des chansons, depuis le temps qu'ils s'occupent de croquer tes millions. Et l'amour, ta mauvaise mine, tu sais, dans tes romans et dans ces films où tu parais tout le temps entre une voiture de sport et deux téléphones blancs. Et l'amour, si tu veux bien ce soir, oublie donc tes trottoirs, tes pin-up, tes dollars. Et l'amour, et reviens-moi tout nu sur tes ergots, comme je t'ai connu quand on était genoux et qu'on n'avait rien sur le dos. Et l'amour, oui te voilà, t'es bien toujours pareil. T'as pas changé, t'es comme cendre et soleil, tout gris quand tu t'endors et bleu à ton réveil. Et l'amour, comme un grand frère, viens t'asseoir à mes genoux. Tu sais très bien que je ne serai pas jaloux de tes bonheurs d'un jour, de tes mômes à deux sous. Et l'amour, quand tu les fais de riz, si tu vois le paradis, me faire des prix. Et l'amour, avant de courir vers d'autres rendez-vous, mets tes dentelles et rejoue-moi froufrou. Attention aux voisins d'en dessous. Et l'amour, pardonne-nous tous nos accordéons, pardonne-nous ces vers de mirliton qu'on chante à ton baptême ou pour ton oraison. Et l'amour, depuis le temps que tu rimes avec toujours, si ça t'ennuie d'écouter nos discours, on pourrait tous les deux s'en aller faire un tour. Et l'amour, tu sais bien qu'avec moi, tu feras ce que tu voudras, qu'importe où l'on ira. Et l'amour, déploie des ailes comme un vrai chérubin, on arrivera sans doute un beau matin au septième ciel et même un peu plus loin.
Ferra, oui, pour se faire plaisir, j'ai demandé à Muriel Pérez de nous passer ce disque-là. Oui, donc il y a un an, donc Ferra disparaissait. Je pense qu'il aurait été du combat aussi des gaz de schiste chez lui en Ardèche. Ça nous fait du bien de l'entendre, surtout dans ces périodes donc tout à fait noires de ce qui se passe au Japon. On le sait avec cette catastrophe naturelle actuelle, naturelle, vous voyez, catastrophe nucléaire actuellement qui est en cours. Et donc on va parler aujourd'hui des déchets. Alors si petite précision, on me dit Gilles a raison. Je vous admire Jean-Marie, etc. Mais honte à vous, colchic et masculin. Bah oui, effectivement. Donc voilà, donc c'est pas une, mais c'est bien le colchic. Nous sommes avec Alain Gendron, donc nous parlons des déchets. Alors peut-être pour bien comprendre un peu les choses aujourd'hui, si on vous demandait, par exemple, combien on a de déchets en France, tout compris. Bah, ce chiffre-là, on ne le sait pas forcément, c'est à peu près 850 millions de tonnes. Et dans les 850 millions de tonnes, vous en avez une grande partie qui vient de l'agriculture et de la sylviculture, plus de 350 millions. Pareil aussi pour les mines, les carrières et les BTP, plus de 350 millions. Donc là, c'est vraiment le gros de la troupe. Les entreprises, en gros, 90 millions. Et puis après, on redescend la tête dans notre poubelle, hein, qu'elle soit jaune, bleue, verte ou à pois rose, parce qu'il y a quand même plus de 300 systèmes aujourd'hui de tri qui sont un peu différents. On va arriver à 31 millions pour en ce qui concerne 31 millions de tonnes. Alors ça, c'est peut-être moi qui vais le rajouter, mais on va dire que le poids des déchets n'est pas proportionnel au poids politique, parce que le poids des déchets, évidemment, c'est piloté par des élus, donc des intérêts qui sont derrière, des pouvoirs, c'est aussi un petit peu comme l'eau. Et en plus, il se trouve que les grands opérateurs sont les mêmes derrière. Donc, on a notre poubelle avec 390 kilos, avec nos seules ordures ménagères. Donc, qu'est-ce que l'on en fait aujourd'hui? Donc, Alain Gendron, on va dire les grandes répartitions, qu'est-ce que ça devient entre l'incinération, la décharge, le tri, en pourcentage?
Alors, en termes de répartition des modes de traitement, hein, on a tout d'abord la valorisation énergétique, hein, qui représente à peu près une trentaine de pourcents. La valorisation organique.
Ça, c'est l'incinération, valorisation énergétique.
Valorisation énergétique, okay. C'est l'incinération avec récupération d'énergie. Okay. Il reste une très faible partie en France de déchets qui sont traités sans valorisation énergétique, c'est-à-dire 1,5%. Un peu plus de 13% de valorisation organique, 20% de valorisation matière et 31% de mise en décharge de ces déchets.
Alors, est-ce que l'on fait mieux ou différemment dans d'autres pays? On imagine que les ordures sont traitées différemment, je ne sais pas, en Allemagne, en Suède, etc.
Alors, effectivement, les politiques de gestion des déchets varient suivant les pays. Dire que l'on fait mieux, c'est peut-être pas aussi évident que ça. Ce que l'on peut voir, par exemple, en Allemagne, c'est que la politique de la réduction de la mise en décharge a été beaucoup plus importante qu'en France. Le recours, contrairement à ce que l'on pourrait croire, à l'incinération est relativement important en Allemagne, mais aussi avec une part de recyclage extrêmement importante.
Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que l'incinération arrive en fin de course, on va dire. Au départ, c'est quand même le recyclage qui compte avant tout pour eux.
C'est d'abord une politique de réduction de la mise en incinération et de la préparation de combustible qui prévaut en Allemagne.
Alors, si on regarde quand même les objectifs du Grenelle, j'ai vu que réduire de 7% par an dans les 5 prochaines années nos ordures ménagères, porter le taux de recyclage et de matière organique des déchets à combien ?
Eh bien, l'objectif qui est fixé par le Grenelle, c'est sur l'ensemble des déchets collectés par la collectivité locale, hein, c'est-à-dire les presque 38 millions de tonnes aujourd'hui. L'objectif, c'est d'arriver à 35% en 2012 et 45% en 2015.
D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour ça ? Parce qu'il faut quand même aussi des incitations financières, on imagine.
Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs outils qui sont utilisés. D'une part, le Grenelle a mis en place ou a renforcé le recours à la taxe généralisée sur les activités polluantes, hein, la TGAP, avec un renforcement de la TGAP sur la mise en décharge et la mise en place d'une TGAP sur l'incinération.
Alors, juste pardonnez-moi, c'est vrai qu'on n'est pas très violent quand même en France. Quand je vois une TGAP, l'équivalent par exemple de 100 euros la tonne aux États-Unis, en Irlande ou bien en Angleterre. Chez nous, c'est quoi ? C'est 20, 21 à peu près ?
Effectivement, on est dans ces ordres de grandeur-là, hein, avec un certain nombre de paramètres de calcul de la TGAP affectée aux différentes installations. Et d'autres pays ont fait le choix d'une fiscalité environnementale beaucoup plus importante, des montants effectivement autour de 80-100 euros.
Ça, c'est pas vous qui le décidez naturellement à l'ADEME. Je veux dire que le Centre national d'information indépendant de soins et déchets, vous avez son site qui est très bien fait sur le site de CO2 Mon Amour, nous rappelle que là, dans la loi de finances donc de 2010, ça freine quand même du côté des parlementaires, c'est-à-dire qu'il est un peu urgent d'attendre, donc ça ne va pas forcément modifier nos habitudes de gestion de déchets, et on voit bien qu'on soigne aussi à travers cette politique des intérêts des géants du secteur, hein. C'est quand même par là aussi que ça se passe avec cette fameuse TGAP.
Il y a un signal qui a été donné au niveau du Grenelle de l'environnement et de la loi qui en a découlé.
Oui.
Ce signal pourra être renforcé en tant que de besoin pour améliorer l'orientation des déchets.
Alors maintenant, regardons le contenu de notre poubelle. Qu'est-ce que l'on recycle vraiment ? Et alors, c'est aussi intéressant, parce que je suis sûr qu'on va avoir des courriels sur ce thème. On a vu ce qui est vrai. On a vu ça à Paris, on a vu ça à Marseille. À un moment, des gens qui triaient d'un côté, et puis la poubelle, on va dire la poubelle jaune et puis la poubelle bleue, hop, c'est parti tout ça en incinération ou bien c'est parti en décharge. Est-ce que c'est la majorité de l'espèce ou bien est-ce que ce sont des cas isolés ?
Alors, effectivement, ce sont plutôt des cas isolés. Hein. On a affaire à des circonstances différentes dans un cas et dans l'autre. Hein. Dans un cas, c'est plutôt une collecte sur la voie publique et aujourd'hui, on a un peu de mal à ce que les Français trient bien sur la voie publique. C'est certainement un enjeu pour l'avenir, hein, pour les mois à venir carrément. Et puis dans l'autre cas, c'est plus des problématiques locales de gestion du service qui ont conduit à bypasser le tri qui était normalement la destination de
ces déchets. Donc ça vaut le coup quand même, puisqu'on est, on est dans la réutilisation de la matière, de continuer à trier.
Aujourd'hui, ces éléments-là ne sont absolument pas mesurables. Hein. C'est dans l'épaisseur du trait, comme
D'accord.
on dit. Et la quasi-totalité ou la totalité des déchets qui sont collectés sélectivement rentrent dans des centres de tri.
Alors, le meilleur déchet, évidemment, c'est celui que l'on ne produit pas. On est bien d'accord que la règle des 3 R, c'est-à-dire réduire, réutiliser, recycler, c'est ce que l'on souhaite faire donc au maximum. Où en est-on maintenant si on prend, on va dire, grande famille par grande famille ? C'est-à-dire les journaux, les cartons, donc le papier, on recycle juste en pourcentage, que l'on comprenne, on en est à peu près à combien ?
Alors, sur le papier, hein, c'est-à-dire les journaux, revues, magazines, papier de type bureau qu'on peut avoir à la maison, papier d'écriture...
Et autres saloperies publicitaires qu'on
nous impose. Publicitaires, hein, autres éléments publicitaires, on est à moins de 50%, on est aux alentours de 45% de recyclage. C'est-à-dire que le tri a cette efficacité-là aujourd'hui.
Bon, donc c'est quand même... on a quand même là aussi une marge de progression, on va dire. Hein.
On a effectivement une marge de progression, et là, le souci collectif, c'est effectivement d'aller bien au-delà de ces 45% et de recycler un maximum de papier dans les années à venir.
Le verre, cocorico ?
Le verre est un produit, effectivement, un déchet bien recyclé, hein, puisqu'on dépasse les 80%. Hein, c'est aussi le premier en quantité dans les emballages. C'est une collecte qui se fait en apport volontaire dans la plupart des collectivités locales. Mm-hmm. Effectivement, on a un bon score à ce niveau-là.
C'est combien, alors, le score c'est...
81%.
80%, OK. Mais alors, nous on ne trie pas par couleur. Je sais qu'en Allemagne, par exemple, ils trient vraiment par couleur. Et le vert, le blanc, le brun, que sais-je.
Oui, il y a eu un choix différent entre la France et l'Allemagne. D'abord parce qu'il y a des choix de consommation. Hein. Il faut aussi regarder ces questions de tri à l'aune des consommations dans les différents pays. La France a choisi de collecter tout en mélange parce qu'on avait les capacités d'absorber ce verre en mélange l'ensemble de nos verreries. Il s'est révélé plus récemment qu'on arrivait à saturation des capacités. Et ayant pris le temps d'attendre. Aujourd'hui, on a des technologies qui sont disponibles et qui permettent de trier automatiquement les couleurs, de ne pas demander aux citoyens français de faire comme les Allemands, c'est-à-dire d'avoir trois bacs sur le trottoir, un blanc, un vert et un brun.
Là où on n'est pas très bon, c'est les piles, moins de 30%.
Alors, là où on n'est pas bon, c'est les piles. Hein, on est aux alentours de 30%. On a un peu augmenté sur les derniers chiffres que nous venons d'avoir. On est à 32%.
Pourtant, c'est possible. Entre les entreprises qui sont équipées, les supermarchés, etc. Enfin, voilà. Et c'est sacrément polluant lorsqu'on balance ça dans la nature.
C'est un déchet qui peut être extrêmement polluant parce que quand on dit piles, il y a des piles et accumulateurs. Dans les accumulateurs, il y a des accumulateurs nickel-cadmium et ceux-là sont particulièrement polluants. Et il ne faut surtout pas les rejeter dans la poubelle ordinaire parce que ça va venir contaminer les déchets dans certains traitements notamment qu'on évoquera tout à l'heure.
On augmente avec les fameux D3E, les déchets électriques et électroniques parce qu'on est quand même parti de zéro. Maintenant, on est à 6,5 kg à peu près par an et par habitant. Il y a encore du chemin, mais c'est en bonne voie, ça ?
Ça, c'est en bonne voie. La croissance de la collecte est importante hein, d'une année sur l'autre. On est encore assez loin du but hein, puisque ce que l'on consomme chaque année, c'est plutôt aux alentours de 20 kilos. Oui.
C'est-à-dire que 20 kilos d'équipements neufs sont mis sur le marché, on va dire, par habitant, et aujourd'hui, on va pouvoir en recycler 6,5 kilos.
Bah, aujourd'hui, les habitants rapportent dans les systèmes de collecte adaptés 6,5 kilos.
D'accord. L'acier, ça marche très bien.
L'acier, ça marche bien. C'est un métal qui a la particularité d'être aimantable et ça facilite énormément le tri.
Bon, alors moi, ce que je vous propose, c'est de nous intéresser au plastique parce que le chiffre général du plastique, il n'est quand même pas terrible. Hein. Il est de à peu près...
Il est de 22%.
Il est de 22%. Et je vais vous emmener du côté de Beaune. Dans une usine, on va recycler les bouteilles d'eau. Alors, tout de suite, vous allez me dire, mais il faut boire de l'eau du robinet. Oui. Très bien, d'accord, mais il y a quand même quelques petits chiffres qui sont là. Et donc, qu'est-ce que l'on fait de ces bouteilles plastiques ? Allez, je vous emmène.
On utilise 1 million de tonnes de matière plastique pour fabriquer des emballages plastiques ménagers. Sur ce million de tonnes, 437 000 tonnes sont des matières plastiques utilisées pour fabriquer les bouteilles et les flacons.
D'accord.
Et sur ces bouteilles et tous ces flacons qui sont vendus chaque année en France, les Français en trient une bouteille sur deux.
Ah oui,
et donc, c'est ces 225 000 tonnes qu'on va pouvoir recycler grâce au geste de tri des Français.
Ce qui veut dire qu'on a, comme on dit pudiquement, une marge de progression. Quoi.
On peut encore faire mieux, peut mieux faire.
Alors, lorsque l'on parle justement de tous ces emballages, on va dire qu'on en a la moitié en déchets ménagers, donc entre autres ces fameuses bouteilles, on va voir ce qu'elles vont devenir. Et puis le reste, c'est quoi ? C'est de l'emballage industriel ?
Alors, sur les emballages ménagers, donc, on a les bouteilles et les flacons, puis après on a aussi les films qui entourent nos packs d'eau. On a les pots de yaourt, on a les barquettes, les blisters, etc. Donc tout ça, c'est un gisement sur lequel on est en train de travailler.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore le recycler aujourd'hui.
On ne sait pas encore le recycler. On est en train de travailler pour savoir comment le trier correctement pour avoir des matières plastiques qui soient suffisamment pures ensuite pour pouvoir faire du recyclage.
Mais donc aujourd'hui, alors je sais pas, est-ce que les pots de crème fraîche, les pots de yaourt, les barquettes, c'est pas forcément la peine de les mettre dans la poubelle jaune ?
Non, aujourd'hui on demande aux gens de ne mettre dans leur poubelle jaune que les bouteilles et les flacons.
Allez, allez, faites valser vos bouteilles d'eau, 7 à 8 milliards de litres produites en France, des paquets de bouteilles que l'on connaît, des petites, des grandes, des moyennes, des colorées, des transparences, allez, allez, faites valser. Bon, évidemment, quand on est dans des coins comme le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Bretagne, des grandes cultures industrielles, l'eau est beaucoup moins bonne et c'est là, évidemment, qu'on en consomme le plus parce qu'on n'a pas véritablement le choix. Donc, qu'est-ce que l'on fait après de ces fameuses bouteilles? Comment ça se passe une fois que vous l'avez mise, cette bouteille plastique, dans votre bac jaune? Alors on va en parler avec Catherine Klein, que vous avez entendu, qui est responsable chez Valeurs Place. Valeurs Place est une société anonyme dont la mission est d'apporter aux collectivités locales la garantie que leurs bouteilles et flacons plastiques seront repris et recyclés. Donc, faut imaginer que vous avez 1500 collectivités locales qui approvisionnent d'abord 230 de tri qui sont répartis partout en France. Et puis après, vous avez une vingtaine d'usines de recyclage, dont celles que l'on va visiter, une vingtaine en Europe, dont une douzaine donc en France. Celle que l'on va visiter, c'est l'usine Artenius à Sainte-Marie-la-Blanche. Très joli comme nom, on est en Côte d'Or, donc on n'est pas loin de Beaune. Et donc, nous sommes accueillis aussi avec Noureddine Maloul, qui est ingénieur sur place. Donc, le parcours de votre bouteille, quel est-il pour Belle la Vie? Allez, c'est parti. Là, maintenant, nous sommes dans le domaine de Noureddine Maloul, donc chez Artenius. Là, c'est votre matière première. Alors, d'où provient-elle? Là, on voit ces montagnes. C'est d'ailleurs assez joli, hein, parce qu'on a, évidemment, on a les dominantes bleues. On se doute bien que ce sont les bouteilles d'eau minérale, mais on a des bouteilles d'un peu toutes les couleurs. Enfin, ça peut inspirer les artistes, hein, cette affaire-là.
Oui, tout à fait. Alors, notre besoin annuel de balles pour l'ensemble de l'usine, c'est 45 000 tonnes de PET.
D'accord.
Il faut savoir que nous travaillons uniquement par gamme. Nous ne mixons jamais
le bleu, le vert et le blanc.
Ouais.
Alors, on va rentrer dans l'usine. Là, on va vous suivre. En général, dans cette émission, vous entendez souvent des pas dans la neige, des pas dans les feuilles, dans les branchages. Là, c'est des pas sur des bouteilles plastiques. C'est un petit peu différent. Et là, vous avez donc un camion qui est en train de décharger.
Donc, comme vous pouvez le voir, ça vient par semi-remorque.
Ouais.
En général, dans un camion, nous avons environ 15 tonnes de balles, comme nous appelons cela.
Ouais, ouais.
Une balle, c'est environ entre 300 et 400 kilos. Donc, lorsque vous pensez qu'une bouteille vide, c'est environ les 20 grammes.
Aurélie, là, on est face à un lot qui vient d'où?
C'est un lot qui vient d'Allemagne. Comme vous pouvez le voir, c'est uniforme en couleur, c'est
ouais.
de bonne qualité. Les Allemands ont un système de consigne. Donc, en fait,
ils achètent une bouteille comme ça, donc à base de plastique, de PET, et après, donc, ils la rapportent.
Tout à fait. Ils la rapportent donc dans un centre dit de traitement qui reprend et qui rembourse les personnes.
Et ça marche?
Au magasin, oui.
Qu'est-ce que vous proposez là? On va faire quoi?
On va rentrer un petit peu dans l'antre.
Ça marche. Allez, on y va. Noureddine Maloul, quelles sont les différentes phases de production? On a donc ces bouteilles, on le comprend, qui rentrent à l'intérieur maintenant de l'usine. Après, qu'est-ce qui se passe?
Bien, nous avons une phase dépolluante, donc pré-rinçage,
ouais.
dans laquelle on va enlever tout ce qui est pollution, telle que la colle, telle que les étiquettes. Ensuite, une phase de broyage. Ensuite, une phase de lavage. On va rentrer dans une énorme machine à laver. Ensuite, on va devoir séparer les bouchons des paillettes et enfin une phase de séchage qui va nous permettre ensuite de partir vers l'extrusion.
Alors justement, ce qu'on appelle l'extrusion, parce que là j'ai entre les mains donc des petits granulés, donc on comprend bien que la bouteille a été lavée, elle a été broyée, donc découpée. Après c'est quoi? On va la fondre? Comment ça se passe?
Oui, on remet le PET à son état liquide
ouais.
pour pouvoir le passer à travers une filière. Cette filière va nous donner un certain nombre de joncs et ces joncs vont nous permettre, donc ce sont des joncs type spaghetti, qui ensuite vont être coupés à 2 mm, 3 mm de longueur.
D'accord.
C'est ce qui va nous permettre d'avoir la résine et de pouvoir recycler notre résine comme étant à contact alimentaire.
Alors, on a donc soit la forme, on va dire, de petits granulés, ou bien alors, là, je vois ce qu'on appelle des préformes. On dirait une espèce de bébé bouteille. Qu'est-ce que c'est?
La préforme, donc, c'est la bouteille avant soufflage. Et ensuite, nous fabriquons des préformes de différentes gammes.
En fonction des marques.
En fonction des marques. Ouais. Derrière, eh bien, nous envoyons ces préformes vers les embouteilleurs qui les soufflent et qui les remplissent.
D'accord, oui, donc vous faites la première partie du boulot.
Tout à fait.
Là, je vois deux grandes bouteilles, enfin plus que des bouteilles où il y a marqué air liquide dessus. Alors qu'est-ce que c'est quel stade là pour vous dans votre...
Alors dans notre stade, c'est le stade de la polycondensation. Donc,
en français
ben, en fait, ils vont éliminer tous les polluants possibles qui ont pu être contenus dans les granulés. Et donc sous ce gaz, sous l'azote, pendant 16 heures, les granulés vont séjourner dans la chaleur et donc ils vont transpirer tous les polluants possibles qui auraient pu être contaminés, voilà. Qui auraient pu rentrer dans la bouteille à un moment donné si vous avez eu la mauvaise idée de diluer vos produits et de les mettre dans une bouteille d'eau avant de l'acheter dans votre poubelle de recyclage.
Très bien, voilà. Catherine Klein, aujourd'hui, les marchands d'eau minérale travaillent avec quel pourcentage de matière recyclée dans une bouteille ?
Aujourd'hui, certains fabricants mettent 25% de PET recyclé dans leurs bouteilles et leur objectif, c'est d'aller jusqu'à 50% de plastique recyclé.
Alors on fait ça pourquoi ? Pour des questions d'image, d'écologie, d'environnement, mais aussi d'énergie, de gaz à effet de serre ?
Ah, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience chez les industriels. Ils veulent diminuer l'empreinte carbone de leurs emballages, ouais. Et en utilisant du plastique recyclé, on diminue significativement l'impact sur l'environnement des produits qu'on fabrique.
Alors on pourrait se dire, bon, tout ça c'est très bien, mais ça génère aussi quand même de l'énergie, ça génère aussi du transport par camion principalement. On fait une analyse du cycle de vie, c'est quand même intéressant cette affaire.
Il y a une analyse environnementale, bien sûr, qui a été faite de toutes ces étapes de recyclage, parce que ça n'aurait pas de sens de recycler si ça n'était pas bénéfique pour l'environnement. Donc cette analyse de cycle de vie, elle a été faite, et c'est pour ça que les industriels s'engagent à mettre du plastique recyclé dans leurs emballages, parce que ça permet de diminuer l'impact environnemental de leurs produits. Ça évite de produire du plastique à partir du pétrole, et donc on substitue de la matière vierge en la remplaçant par de la matière recyclée. Sans problème de sécurité pour le consommateur.
Nouredine Maloul, vous rentrez combien de milliers de tonnes de bouteilles ?
Donc nous rentrons 45 000 tonnes de bouteilles. De ces 45 000 tonnes, nous ressortons 35 000 tonnes de paillettes.
D'accord.
Ces déchets, je dirais, nous avons une certaine fierté, c'est que tout est valorisé et recyclé.
Oui, donc on essaie de boucler la boucle au maximum.
Tout à fait.
Hein.
Tout okay. fait. Le message que je tiens à faire passer, qui est très très important, c'est qu'il n'y a rien d'enfoui.
Alors, parlons quand même du modèle économique. Comment ça fonctionne, cette affaire-là ? Parce qu'il y a des bouteilles donc, qui vont arriver, que nous trions, qui vont être vendues, on va dire, par les collectivités locales ou bien par les centres de tri ?
Elles sont vendues par les collectivités locales, donc sous forme de balles. Donc, Valorplast achète les balles aux collectivités locales, ouais. Verse aux collectivités un prix de reprise. Et ensuite, Valorplast transporte les balles jusque dans l'usine d'Arthénius, l'usine de recyclage. Elle vend les balles au recycleur. Le recycleur fabrique des granulés et lui, il va vendre ses granulés à un conditionneur, un fabricant de boissons qui va fabriquer des bouteilles et pour conditionner ces boissons dans ces bouteilles. Mais il faut quand même savoir que toute cette collecte sélective, elle a un coût important pour les collectivités locales.
On a quand même le fameux petit point vert hein, voilà. Que l'on connaît, parce qu'au final, c'est quand même le consommateur qui va payer ça.
Effectivement, c'est le consommateur qui paye, puisque en France, on a mis en place un système qui s'appelle la responsabilité élargie des producteurs. Quand on va faire nos courses, on achète un produit. Dans ce produit, on paye la valeur du point vert. Et ce point vert, il va servir à... En fait, on va le reverser aux collectivités locales pour payer une partie des coûts de collecte et de tri des emballages.
Et donc l'autre partie, on va la retrouver sur notre taxe d'habitation
ou... Sur votre feuille d'impôt, dans votre taxe ordure ménagère ou dans votre redevance, en fait. D'accord. Puisqu'il y a une partie du surcoût qui est prise en charge par le citoyen et une autre partie qui est prise en charge par le consommateur, la plus grosse partie.
Alors, Nouredine Maloul, vous êtes quand même un homme passionné, ingénieur, technicien, vous aimez ça, vous venez du monde de l'automobile, vous voyez ce monde du recyclage complètement évolué. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce job ?
En fait, ce qui me plaît, c'est qu'on arrive à transformer quelque chose qui, pour
un déchet.
Bon nombre d'entre nous, est très répugnant.
Ouais.
et on le transforme vers quelque chose qui est riche et noble.
Bon, alors, pour que tout ceci fonctionne, est-ce que vous allez me faire un couplet de « mais oui, il faut continuer à consommer, à prendre des bouteilles en plastique et tout ça » ou bien non, voilà, parce qu'il faut aussi que c'est la machine économique, elle tourne aussi parce qu'il y a de la consommation. Donc.
Ah, bien sûr, je crois qu'aujourd'hui, on reprend ce que les gens mettent dans leur poubelle. Hein, donc, nous, on travaille sur la poubelle de tri et on essaye d'en faire quelque chose plutôt que d'aller l'enfouir ou l'incinérer. Donc, on essaye d'anoblir, en fait, la fin de vie de tous ces produits. Oui. Et le jour où la consommation évoluera, eh ben, on évoluera aussi. Alors, s'il vous plaît, faites encore un effort.
Ouais,
continuez
pouvez.
À trier. Voilà.
Bon, on vous incite pas à consommer l'eau minérale. Hein. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Simplement, c'était la vie d'une bouteille. Alain Gildron de la Dame, je vous en prie.
Oui, alors c'est intéressant ce reportage dans la mesure où il montre bien à quel niveau on est arrivé aujourd'hui dans le recyclage. Il y a 15 ans, les mêmes plastiques, on en aurait fait des pick and ving. Il y a 5-10 ans, et encore aujourd'hui d'ailleurs majoritairement, ces bouteilles deviennent de la fibre polaire. Et on est en train de boucler la boucle aujourd'hui avec un recyclage dans la bouteille. Et ça, c'est extrêmement intéressant.
Alors, ce qu'on ne boucle pas encore, c'est l'harmonisation des conditions de collecte. C'est ce que nous dit Brigitte. Elle nous dit aujourd'hui, il y a quand même, je vous parlais de 300 modes, on va dire, de tri différents. Je ne sais pas, je vais à Aix-en-Provence, ben, ça va être différent de Nantes, ça va être encore différent de Lille ou de Paris. Où en est-on ?
Effectivement, ça c'est une constatation que l'on fait et ça a fait l'objet de discussions dans le cadre du Grenelle de l'environnement et d'un engagement sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Et il a été demandé, de par la loi, à mettre en place une harmonisation des consignes de tri pour 2015.
D'accord. Bon, on nous dit aussi que du côté de Marseille, les déchetteries sont complètement dépassées. Mais on a bien compris que c'était un truc un peu particulier, hein, le déchet à Marseille. Surtout politiquement, ce n'est pas très très simple. On est toujours à 25% de refus aujourd'hui dans une poubelle, on va dire une poubelle jaune, lorsqu'on entre ce que l'on met après ce qui va être refusé en centre de tri.
On est aujourd'hui un peu moins.
Oui.
On est plus proche de 16-17% aujourd'hui.
Bon, moi, je ne rends pas compte par rapport, je sais pas, à d'autres pays. On cite très souvent la Suède, l'Autriche, l'Allemagne comme étant des gens extrêmement vertueux. Ce sont les mêmes chiffres, ils sont meilleurs. Enfin, ils ont...
Au niveau des refus de tri, j'ai pas d'éléments en termes de qualité. Hein, mais ça dépend aussi des consignes de tri qui ont été données. Hein. En France, comme ça a été dit, on ne recycle et on ne collecte que les bouteilles, alors que dans d'autres pays, on collecte l'ensemble des plastiques.
Nous allons suivre Florent Marchais. La charrette, mais pas du tout pour remplir, à mon avis, des déchets. C'est une chanson et c'est un album France Inter. Ce garçon sera d'ailleurs le 18 mars à Nantes et le 25 mars à La Cigale. Et après, nous allons parler du fameux tri mécano biologique. Il y a de quoi dire.
Dis, où va-t-elle me conduire ? Vers quel pays merveilleux ? Vers des rivières de plaisir ? J'irai me laver les yeux. Et où va-t-elle m'emmener? Je sens mon corps se détendre, mené par le bout du nez, vers des horizons plus tendres. Ça c'est une belle surprise. Êtes-vous sûr que c'est pour moi? J'ai déjà fait ma valise. Ne me le dites pas deux fois. Et au fait, on t'a pas dit, la charrette t'en fait partie. Et au fait, toi aussi, la charrette t'en fait partie. Oh, j'espère qu'elle aura prévu une balade en forêt. Il fait si chaud que je sue, comme si j'étais au procès. Quelle destination de vacances, combien d'étoiles et de lits. Si j'ai bien compris la danse, c'est une mélancolie. Merde, si elle pouvait me promettre de rouler jusqu'à la fin, être du vent, du salpêtre, puisque je ne suis plus rien. Et au fait, toi aussi, la charrette t'en fait partie. Moi qui n'aime pas la routine, j'ai pris beaucoup de hauteur. Moi, les dents de scie de l'usine, je vais m'empaler le cœur. Mince, la vie passe trop vite.
les gosses sont déjà loin. Quel est le prix du mérite? Et une famille, c'est combien? Et au fait, on t'a pas dit, la charrette, t'en fais partie. Et au fait, toi aussi, la charrette, t'en fais partie.
Voilà, si on peut ne pas en faire partie, c'est pas plus mal. Merci beaucoup, donc, Florent Marchais. Nous sommes toujours la tête dans nos déchets. Petite précision, parce que Noël me dit, par exemple, c'est vrai que vous avez parlé plusieurs fois de poubelle jaune, mais moi, j'ai pas de poubelle jaune. Là aussi, question d'harmonisation, ça peut être blanc quelque part, ça peut être, je sais pas, rose à pois violet ailleurs. Donc, moi, je parlais de sel, ce qui nous permet de trier, donc de mettre alors, notre papier pour certains, peut-être le vert aussi, sauf qu'on s'est en apport volontaire extérieur. Mais donc, là aussi, ça change, hein, les couleurs changent.
Alors, effectivement, il y a des couleurs extrêmement différentes sur l'ensemble du territoire. La France est, avec l'Angleterre, dans 8 pays qu'on a étudiés, le pays où il y a le plus de différences de couleurs. Hein. Mais le jaune est quand même dominant. C'est pour ça qu'on a souvent tendance à parler de la jaune. Il y a 75% des poubelles qui sont jaunes. Mais la toute première était bleue. C'était à Dunkerque.
D'accord. Donc c'est le maillot jaune là, qui l'emporte en tout cas en nombre. Je ne sais pas quelle est la couleur chez Danny Dittmann, parce que qui est un homme formidable. Bonjour Danny Dittmann.
Bonjour Denis Chessou.
Alors, vous êtes maire de Manspach. Nous sommes dans le Haut. Nous sommes d'ailleurs dans le Jura alsacien, parce que quand on pense à l'Alsace, on pense aux Vosges, mais vous n'êtes pas très très loin de Bâle, voilà, et puis vous êtes le vice-président de la communauté des portes, de la communauté de communes des portes d'Alsace en charge de l'environnement, vous êtes président du syndicat mixte d'aménagement et de la renaturation de la Largue, hein, donc, et ce qui nous intéresse bien, c'est que vous êtes vraiment un des précurseurs, vous avez écrit un ouvrage pas du tout politiquement déchet, donc ça nous intéresse, qui s'appelait Le Jardin des Impostures, et puis bah, vous êtes parti, vous, sur ce mot déchet. Pour vous, comment vous réagissez quand on parle de déchets?
Ben, j'aime pas du tout ce mot-là, parce que j'ai l'impression que je sors quand même d'un siècle où on ne visait pas les finitudes de la planète. On croyait qu'on avait des ressources autant qu'on en voulait. Et c'est là, effectivement, qu'est né le mot déchet. Ça veut dire qu'on utilisait les produits de la terre, des produits manufacturés, puis quand on savait plus quoi en faire, on les jetait. Puis maintenant, nous sommes rentrés dans un nouveau siècle, qui est le siècle des pénuries avérées. Et nous nous rendons compte, en fait, que c'est pas parce qu'on ne sait plus quoi faire d'un produit une fois qu'on l'a utilisé qu'il devient un déchet. Il reste un produit. Et c'est à nous, effectivement, de faire le nécessaire pour respecter la terre, de faire durer ce produit le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal dans la gestion quotidienne de ma petite commune, là. Nos personnes, nos habitants, au travers de la pesée embarquée et du tri sélectif, pratique ce qu'on appelle, nous, la valeur ajoutée du geste du tri. Mmh. C'est-à-dire on leur demande de séparer les différents produits. Et ces produits, bah, ils sont valorisables. On l'a entendu tout à l'heure dans l'émission, c'était extrêmement intéressant. Et on se rend compte que des produits comme le plastique viennent à coûter entre 230 et 300 euros la tonne. L'alu, les canettes, ça va chercher 990 euros la tonne. Les métaux, les autres métaux, commencent à coûter extrêmement cher. Donc je trouve que c'est à quelque part très provocateur au niveau français, enfin très très mauvais, on va même dire, on va remplacer le mot provocateur par mauvais, de qualifier des produits qui coûtent si cher de déchets. Et je pense que nous, il faudrait que pour la communication vis-à-vis de nos concitoyens, on leur demande de trier leurs produits résiduels, mais non plus d'aller mettre la main dans les déchets qui, par définition, sont des choses sales, sont des choses dont on ne veut pas parler, dont on veut
alors,
se débarrasser.
Danny Dittmann, sur votre calendrier, vous avez inscrit « Mieux tu achètes », et non pas « Plus tu achètes », mais « Mieux tu achètes ». Voilà, « Plus tu compostes, mieux tu tries et moins tu payes ». Racontez-nous, je sais que vous êtes dans un secteur rural, c'est peut-être plus facile que dans un secteur à forte densité avec habitation verticale, mais donc 15 000 habitants, 33 communes, vous en êtes où aujourd'hui? Parce que vous avez été vraiment un des précurseurs et vous avez fait maigrir les poubelles de vos concitoyens.
Oui, disons que ça a commencé il y a une vingtaine d'années, hein. Notre expérience, à cause d'une décharge, la seule décharge du département, Retsfiller, qui était à côté de nous, et c'est de là que nous sommes partis dans cette démarche. Et à force d'expliquer, de communiquer, d'aller dans les écoles, de travailler dans la maison de la nature, de faire de la formation sur le compost, et ainsi de suite, nous sommes arrivés, donc en 1999, à mettre en place ce qu'on appelle la pesée embarquée. C'est tout à fait la facturation incitative qui a été proposé par le Grenelle de l'environnement. Et ceci, ce chemin nous permet de dire aujourd'hui que nous étions partis en 91, nous étions à peu près autour de 380 kg par habitant et par an de produits résiduels ultimes mélangés, et aujourd'hui nous ne sommes plus qu'à 78 kg.
Mais attendez, il y a quand même des gens qui doivent faire la gueule, les incinérateurs à côté, les gestionnaires aussi de centres d'enfouissement, non?
Ah mais ça a été le problème en fait, hein. Ah oui. On a eu beaucoup de mal à faire comprendre ça à un certain nombre d'acteurs économiques privés, mais maintenant, bon, c'est vrai qu'au niveau politique, on voit que la décharge de Retsuler, qui avait une capacité nominale de 230 000 tonnes en 99, n'est plus qu'à 132 000 tonnes pour tout le département du Haut-Rhin, et que les incinérateurs qui sont là, ils sont complètement surcapacitaires, ils commencent à avoir des sacrés problèmes pour se fournir en produits, ils sont sans doute obligés d'aller en chercher ailleurs, et puis ailleurs, comme on commence à être vertueux aussi, ça devient extrêmement difficile.
Alors pourquoi, d'après vous, on est un des seuls pays européens à avoir mis le paquet sur, on va dire, la purification par le feu? Alors maintenant, on parle de valorisation énergétique, quitte à brûler, autant faire de l'énergie, mais au départ, c'est quand même un incinérateur, ou bien sur les décharges, d'après vous?
Ben disons qu'on a commencé très tôt, c'est peut-être le côté français qui a voulu qu'on a multiplié les incinérateurs sur le territoire français. Et une fois que ces outils étaient là, il a fallu prendre des habitudes pour les remplir, quoi. Donc ce qui a fait que maintenant, pour en sortir de cela, il y a toute une activité économique qui s'est greffée là-dessus. Et aujourd'hui, ben, il faut essayer de faire autrement. Et c'est pas simple, parce que heureusement que dans le Grenelle de l'environnement, on a pu sortir les contrats d'approvisionnement qui liaient les incinérateurs aux collectivités. Maintenant, ils ont été cassés. C'était qu'avant, une collectivité, elle s'engageait à fournir 12 000 ou 15 000 tonnes à un incinérateur. Et si elle n'arrivait pas à les fournir...
Elle avait des pénalités.
Ouais, aujourd'hui, ben, et puis bien évidemment, c'est comme ça qu'une commune qui voulait essayer de trier, eh bien, elle faisait monter le prix de l'incinération, et les gens disaient, bon, ben, plus tu tries, plus tu payes. Bon, c'est quelque chose que nous avons essayé de contourner.
Ce que je vous propose, Nelly Hitman, moi, c'est de venir vous voir rougir un jour pour faire un reportage, que je sais qu'il y a énormément de choses qui se passent chez vous, donc à Mansepach, sur les déchets, mais pas seulement, et que vous faites partie de ces maires exemplaires. On va faire maintenant un petit tour, si vous le permettez, du côté du Pays Basque. On va aller donc pour parler de ce fameux traitement mécano-biologique ou bien tri mécano-biologique. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je sais que vous êtes contre aussi. Nous allons retrouver Laurent Etcheberry, qui est le maire de Charite-de-Bas. Nous sommes dans ce merveilleux pays qui est la Soule. Donc on est en limite du Béarn, mais on est quand même bien dans le Pays Basque. On est à 10 km de Mauléon. Donc racontez-nous, parce que vous ne voulez pas, Laurent Etcheberry, donc de ce tri mécano-biologique.
Donc en 2006, la population de Charite-de-Bas a appris par la presse que la commune avait été retenue pour recevoir et un centre de tri mécano-biologique et une décharge, en fin de compte, voilà, qui sera contiguë à l'usine. Donc pourquoi la population et la commune est contre le PTMB, le pré-traitement mécano-biologique, comme son nom l'indique, c'est un pré-traitement et ce n'est pas un traitement. Le traitement, c'est ce qui suit derrière. Et ici, dans notre cas, c'est un enfouissement. Donc c'est une technique qui n'encourage pas le comportement éco-citoyen, c'est-à-dire que le prestataire vous dit mais mettez tout dans votre poubelle et nous on fera le tri dedans mécaniquement.
Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce qu'en fait, ça a été décidé par qui?
Nous faisons partie d'un syndicat qui a retenu en 2004 cette technique. Donc si en 2004 cette technique était avec quelque avenir, maintenant nous savons très bien les uns les autres que cette technique maintenant est obsolète par rapport aux exigences du Grenelle et maintenant de notre société. C'est-à-dire que cette technique qui a été retenue en ce qui nous concerne en 2004 ne valorise en fin de compte que très peu de matière. C'est-à-dire que sur 100% de matière qui rentre, le PTMB, c'est un déchiquetage des sacs, c'est laisser en fermentation quelques jours, déshydrater la chose en fin de compte et sortir un pseudo-compost, parce que la partie fermentescible est accompagnée de métaux lourds, de plastique, de papier, de verre, etc. Et c'est-à-dire que ce n'est pas un compost qui est pendable en agriculture.
Laurent Etcheberry, où en est-on de ce projet aujourd'hui?
Ce projet, donc, le syndicat fait le forcing, la commune fait tous les blocages possibles. Actuellement, rien n'est fait, mais c'est-à-dire que maintenant, les enquêtes publiques sont passées avec beaucoup de réserves au niveau des commissaires enquêteurs, mais quand même un avis favorable qui a permis au syndicat de demander au CODERS une déclaration d'utilité publique de leur projet.
D'accord. Vous êtes mis, j'imagine, en relation avec vos collègues de la Vendée qui n'en veulent pas non plus, parce que là aussi, ils sont vent debout sur ce projet.
Nous avons des contacts avec la Vendée, l'Alsace et d'autres régions, aussi la commune d'Ytrac, dans le Cantal, où on est très surpris les uns et les autres, c'est que les résultats que connaissent les usines actuelles sont très très peu performants, et que ce soit du cabinet du ministre, de l'ADEME, que ce soit le CNI, de la FNAD ou la FNE, même le rapport Soulages, mettent de très très hautes réserves par rapport à cette technique. Et on sait bien que quand ces autorités-là mettent de hautes réserves, oui, ça veut dire que c'est une ineptie économique
écologique. C'est une certaine pudeur. Enfin, le CNID le dit haut et fort. Ce que vous pointez, donc, c'est l'entêtement en fait, par rapport à ces projets. Donc, qu'est-ce qui peut arrêter, je veux dire que, comment on doit s'organiser alors, le monde associatif, si on ne veut pas de cela, ou bien le monde politique que vous représentez?
Alors, le monde associatif, lui, il doit communiquer, dire que bon, mais la réalité de cette technologie, si on peut appeler ça comme ça...
C'en est une, on n'est pas d'accord, mais c'en est une,
oui,
quand même.
Voilà. Mais surtout, amener des alternatives qui sont sur l'éco-citoyenneté, c'est rappeler aux élus que la taxe incitative est là pour que le citoyen paye les déchets qu'il produit réellement, c'est-à-dire le pollueur-payeur, c'est-à-dire que il faut rappeler aussi que la directive européenne conduit à faire la collecte sélective des biodéchets et des fermentescibles, aussi bien sur les collectivités que sur les poubelles des ménages. Parce que si on enlève tout le fermentescible au départ, il y a plus de 50% du poids de la poubelle qui est enlevé, et il ne reste derrière que des produits, c'est-à-dire des plastiques, des métaux, du textile, du papier, des cartons. Et on sait à peu près tout recycler, on sait valoriser toutes ces choses.
Alors, on se rend compte, Alain Gelderon, que ce sont des projets qui sont assez déments. Et puis, ce n'est pas les seuls. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il y a un engouement de la part d'un certain nombre d'élus parce qu'on refuse de créer de nouvelles installations de décharge, d'incinération. Personne n'en veut. Le phénomène NIMBY, on le comprend aussi parfaitement. Personne ne veut de ça, de toute façon, en France, sur son territoire, aujourd'hui. Mais on se dit que c'est un peu une solution, un peu miracle. Et que ce tri mécano-biologique éviterait de ne pas trop se poser la question sur les efforts à mettre en place pour une collecte sélective, peut-être complexe à organiser, mais qui est quand même logique. Donc, où va-t-on avec ça? Même l'ADEME a donné un avis qui est contre. Le compost qui résulte de ça, là, j'ai eu un appel des chambres d'agriculture de France qui vous disent « Mais attention, nous, on n'en veut pas de ce compost-là parce qu'il ne sera pas de bonne qualité. On va faire attention à ce que l'on va mettre sur nos sols. On n'en veut pas. Nous, ce que l'on souhaite, c'est un développement des collectes sélectives de biodéchets, de matières organiques. Alors, est-ce que c'est la fausse bonne idée, ça, ce tri mécano-biologique?
Alors, les élus sont un peu désemparés face au refus qu'ils rencontrent c'est sur sûr. Le terrain pour développer l'incinération ou mettre en place des installations d'incinération ou de décharge. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le traitement mécano-biologique a une destination en France différente de ce qu'on a à l'étranger.
Ah. Hein,
les Allemands, qui ont beaucoup développé ce mode de traitement pendant une période, d'ailleurs, ils ouvrent plus d'installations aujourd'hui. Il y a 45 installations en Allemagne. L'objectif est de diminuer la partie fermentescible, soit pour mettre en décharge, soit pour faire du combustible derrière, mais pas du tout pour avoir une valorisation agronomique. On est le seul pays en Europe aujourd'hui à dire que le TMB, c'est pour faire de la valorisation agronomique. Et effectivement, l'ADEME a mis un avis réservé sur cette technologie parce qu'elle est coûteuse. C'est d'abord un pré-traitement. Et on n'est pas sûr d'avoir un compost de qualité compte tenu des produits qui rentrent, des déchets qui rentrent dans ces installations.
Alors les opérateurs, vous dites oui, mais attention, ce compost sera plus que conforme à la norme en vigueur, à part qu'il y a eu un très bon papier dans le Canard enchaîné du 16 février qui s'appelait Avis de déchets, qui nous rappelait qu'en ce qui concerne les fameuses normes, ça tolérait la présence de métaux lourds dans le compost, cuivre, plomb, nickel, mercure et autres joyeusetés, qu'il allait se retrouver dans la nature, qu'il n'y aurait aucun système d'assurance qualité, et enfin que ce seraient les tenanciers de ces fameux TMB qui feraient eux-mêmes les 2 à 4 analyses par an. Voilà, en toute transparence, bien sûr. Voilà, donc ça, c'était ce qu'on pouvait dire sur ce tri mécano-biologique. Un grand merci à vous, Alain Gelderon. Je sais qu'on pouvait en parler aussi encore plus, mais ça ne semble pas être la solution vraiment idéale en France. Merci à Pierrick Monsigny, à Rémi Quincy à la technique. Un grand merci à Séverine Bouvard, notre assistante, à Jean-Christophe Pinaza, Valérie Ayestaraï qui réalisait l'émission. Anne Gouzon a nourri, non pas notre décharge, mais a nourri les sites, mais oui, abondamment de CO2, mon amour. Vous retrouvez d'ailleurs aussi son actualité en temps réel. Merci à Muriel Pérez. La semaine prochaine, attendez, on vous retrouve au Salon du Livre. On sera en direct du Salon du Livre. Il y aura le philosophe Dominique Bourg, Alain Bougrain-Dubourg, Isabelle Saporta, sur son livre sur l'agriculture. Donc venez, on vous rejoint. Rejoignez-nous à 14h. On sera porte de Versailles, me semble-t-il, au Salon du Livre de Nichessous. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain, 19h55.